Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée au micro Renaud Grégoire. La semaine dernière, nous avons reçu Daniel Laliberté, directeur de l'Office national de liturgie secteur francophone. Une conversation qu'on n'a pas terminée, tellement intéressante. On avait plusieurs sujets, donc on l'a réinvité cette semaine. Alors, Daniel Laliberté, bienvenue.
Ben, merci encore une fois. Ça aurait été agréable de continuer.
Eh bien, tellement de sujets par rapport à la liturgie, mais on va aussi parler de votre expérience au Luxembourg et aussi Risquer l'avenir que vous avez donc abordé aussi et la promotion de l'Évangile. Tout ça se tient finalement.
Je pense qu'il y a des interrelations, en tout cas dans ma conviction qui fait que j'ai décidé d'aller étudier en théologie en 1981. Il y avait déjà toute ça, cette conviction qu'il y avait un besoin d'annoncer l'Évangile qui me portait.
Alors, vous avez un projet nouveau à l'Office national de liturgie, secteur francophone, et je pense que ça serait important d'en parler parce que ça touche la formation et la liturgie.
Exactement. Là, je retrouve mon côté pédagogue, si on peut dire, qui est très important dans l'ensemble de mon parcours, parce que on constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de bonne volonté en liturgie, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une formation un peu structurée en liturgie. Et donc, c'est un besoin de formation qui est nommé par plein d'instances en liturgie. Et la façon dont on a envisagé de le faire cette fois-là, étant donné que c'est pas évident à grandeur du Canada français de se promener pour aller donner de la formation, et on a des moyens techniques maintenant qui permettent de le faire autrement. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est un programme de formation liturgique par capsule vidéo. Des toutes petites capsules, donc, qui vont être réunies à l'intérieur d'un module. Par exemple, là, on est en train de travailler un module sur Parole de Dieu et liturgie. Et donc, il y a plusieurs capsules à l'intérieur de ce module, chacune voulant répondre à une ou deux questions bien, bien concrètes. Pourquoi il y a toujours quatre lectures dans une messe? C'est quoi l'importance des psaumes? Comment est organisé le lectionnaire? Des choses comme ça. Mais c'est du très concret, mais qui va être mis sous forme de capsule et qui va être rendu disponible sur le site de l'Office national de liturgie, de sorte que les gens pourront, soit individuellement ou soit en se réunissant en groupe, une équipe de liturgie dans une paroisse, par exemple, pourront, avec un guide d'appropriation qui leur sera fourni, seront capables de faire cette formation-là chez eux. Donc, on est dans la phase de validation du premier module pour voir est-ce qu'on a bien réussi, est-ce que notre niveau de langage est parfait pour les gens, est-ce qu'on est trop dans les nuages, on est dans le bien concret, est-ce qu'on répond bien aux questions qu'on annonce, qu'on va répondre au début. Donc, on est en train de valider ça, et une fois qu'on aura validé, on pourra se lancer dans l'ensemble de la production.
Daniel Laliberté, est-ce qu'il faut avoir une base en théologie pour suivre ces capsules?
Ah non, c'est ça qui est le but, justement. C'est de dire, les capsules sont sur des questions bien concrètes qu'on se pose quand on a une responsabilité comme bénévole en liturgie, mais on n'a pas besoin d'avoir déjà une formation en théologie. Les éléments de base de théologie, on va les donner dans les capsules elles-mêmes, en vulgarisant les choses de façon suffisante pour que ce soit visionnable par toutes les personnes qui ont ce besoin de formation partout à l'échelle du Canada.
Alors, quand on pense liturgie, la majorité des gens pensent surtout la messe, le baptême, peut-être les funérailles. Est-ce qu'il y a d'autres sacrements ou d'autres éléments? Parce qu'il y a aussi des célébrations de la parole aussi. Est-ce que ça fait partie de la formation?
Ben, tout à fait. Le programme prétend qu'au terme, on aura couvert à peu près tout le champ de la liturgie. Bien sûr qu'il y aura un bloc important sur l'Eucharistie. Il y a deux modules au complet sur l'Eucharistie, mais il y a les autres sacrements, les funérailles. Il y aura même un module sur la liturgie des heures. Il y aura un module spécifiquement sur la question du chant et de la musique liturgique. Et il y aura même au début du parcours des éléments plus de base là qui sont pas liés à une célébration en particulier. Par exemple, toute la question de l'importance du dimanche, l'importance de se réunir en communauté pour célébrer, l'importance de la ritualité dans notre vie, vous voyez, des questions un peu plus transversales là, qu'on va traiter aussi. Donc, on va couvrir assez largement le champ de la liturgie dans pas mal tous ces aspects.
Daniel Laliberté, vous nous avez parlé la semaine dernière, j'ai retenu cette phrase. que le catéchuménat, c'est le modèle de toute initiation chrétienne. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
OK. Bon, je vais préciser en disant que c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le directeur général pour la catéchèse qui avait été écrit en 1996. Il y a une nouvelle version du directoire maintenant qui est parue en 2020, mais qui n'a pas aboli la précédente. Donc, cette phrase-là reste toujours une affirmation centrale du magistère de l'Église. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est quand on pense initiation chrétienne, c'est-à-dire tout le processus par lequel quelqu'un passe de « je ne connais pas le Christ et l'Évangile » à « je suis devenu un disciple du Christ ». C'est ça, un parcours d'initiation chrétienne. Donc, c'est un parcours de formation qui combine des temps de catéchèse, de vie spirituelle et de célébration liturgique. Et donc, quand on dit que le catéchuménat, c'est le modèle de toute initiation chrétienne, on dit que ce sur quoi il faut focaliser notre attention au départ, c'est sur la façon dont l'Église le propose, ce parcours-là, pour un adulte. Le catéchuménat, c'est l'initiation chrétienne des adultes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec un adulte qui se présente, qui connaît rien et qui a été interpellé d'une façon ou d'une autre et qui veut devenir, qui a cette curiosité, ce désir de devenir un disciple du Christ? Donc, bien comprendre comment l'Église offre ce parcours et pour ensuite se dire comment on peut transposer ça avec les jeunes. Hein, si c'est le modèle de toute initiation chrétienne, ça veut dire que ce qu'on vise avec un adulte, et qu'est-ce qu'on vise avec un adulte, je l'ai dit il y a à peu près une minute, on vise qu'au terme de ce parcours, au moment où il va célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne, parce que dans le catéchuménat, les sacrements sont célébrés à la fin du parcours, donc quand on va célébrer avec lui le baptême, la confirmation et sa première célébration eucharistique, que ce moment de célébration-là soit l'affirmation que cette personne-là, maintenant, peut être considérée par l'Église comme un disciple du Christ, par quelqu'un qui confie sa vie au Christ et qui trouve sens à sa vie dans la mort et la résurrection du Christ. Ça, c'est le principe. Maintenant, comment on transpose ça pour que ça devienne la référence pour toute personne en cheminement d'initiation chrétienne, et notamment pour les jeunes, les enfants qui ont été baptisés bébés, alors que normalement, dans le catéchuménat, le baptême arrive à la fin. Là, si quelqu'un a été baptisé petit bébé, comment comprendre ce que ça veut dire? Ça demanderait beaucoup d'explications. C'est là-dessus que j'ai fait ma thèse précisément, là. Ma thèse à 900 pages. Parce qu'on réglera pas ça
aujourd'hui.
Mais c'est ça qui est l'idée, là. Dire que le catéchuménat, c'est le modèle, c'est dire ce qu'on vise avec un adulte, c'est la même chose qu'on devrait viser avec un enfant. Il n'y a pas, hein, c'est dans l'Épître aux Galates, je crois que Paul dit, il n'y a qu'un seul baptême. Et donc, c'est une façon de dire, il n'y a pas deux façons différentes de comprendre l'initiation chrétienne. Il n'y a pas deux objectifs différents pour un adulte ou un enfant. Autrement dit, peu importe quand commence l'initiation chrétienne, est-ce que c'est pour un adulte le jour où il a commencé à découvrir un désir, ou est-ce que c'est le baptême pour un petit bébé, peu importe. À la fin du processus, ce qu'on souhaite, ce que souhaite l'Église, c'est que cette personne-là puisse confesser la foi au Christ mort et ressuscité en pleine conscience, en sachant ce qu'elle veut dire, et que les sacrements soient placés dans le parcours d'une façon opportune pour signifier cette profession de foi.
De façon opportune.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
OK.
Ou par un exemple, ouais. Daniel Laliberté.
Oui, en gros, c'est une façon de dire, et je reprends la phrase que j'ai citée la dernière fois, là, qu'on a dans le rituel d'initiation chrétienne des adultes, célébrer avec fruit en temps opportun. Je la commentais un petit peu en disant, si c'est pas au moment opportun, ça portera pas de fruit. C'est une façon de dire que, bon, par exemple, quelqu'un qui se présente pour un adulte qui se présente, qui dit « je veux devenir disciple du Christ, j'ai commencé à découvrir l'Évangile, je l'ai entendu ici ou là, et ça m'interpelle, et je voudrais faire un cheminement là-dedans », ben, on comprend assez spontanément, on n'a pas besoin de faire une longue explication pour dire « c'est pas encore le temps de faire le baptême de cette personne-là ». On va attendre parce que dans le baptême d'un adulte, il y a une profession de foi. La personne, on va lui demander pendant la célébration, de dire « je crois au Père, je crois au Fils, je crois à l'Esprit », etc. Et remarquez que pour un enfant, pour quelqu'un qui a été baptisé dans l'enfance, quand va arriver le moment de la confirmation, on va aussi lui demander de dire à son tour, personnellement, affirmer qu'il croit au Père, au Fils et à l'Esprit. Déjà, on a une indication de ce que c'est l'opportunité. C'est, si on veut le résumer au plus simple, est-ce que la personne parle avec vérité? Évidemment, on va pas nous-mêmes entrer dans le cœur et les reins de... Ça, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Mais on a comme responsabilité de proposer un parcours qui va faire en sorte que la personne, quand elle va professer ça, que ce soit pas juste une jolie formule extérieure, mais que ce soit, comme dit justement le directoire pour la catéchèse, l'expression extérieure d'une foi vivante, explicite et agissante. C'est ça les mots qu'on a dans le directoire pour la catéchèse. Donc, vivante, c'est-à-dire que ça donne sens à sa vie. Explicite, ça veut dire que au moment où il le dit, il sait de quoi il parle. Et agissante, ça veut dire que ça transforme sa vie aussi. Donc, voilà, l'opportunité, c'est quelque chose de ce genre-là. Là. Est-ce qu'au moment où on célèbre le sacrement, il y a une vérité de ce qui est dit par la personne? Bien sûr, le sacrement, c'est la rencontre de ce que dit Dieu lui-même, mais aussi de ce que dit la personne. Souvent, on met tellement les choses du côté de Dieu, de dire, on va faire confiance à l'Esprit-Saint, puis je dis pas qu'il faut pas faire confiance à l'Esprit-Saint, on s'entend, mais on oublie qu'il y a aussi la parole de la personne dans la célébration. Et pour qu'il y ait vérité de l'acte de sacramentel qui se passe là, il faut à quelque part qu'il y ait une vérité de la parole qui est dite, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de cohérence. Si je le dis, c'est parce que ça fait sens pour moi. Voilà. On pourrait développer beaucoup là-dessus, c'est assez complexe comme question, mais c'est dans cette direction-là que ça va.
Daniel, la liberté, c'est absolument intéressant. Et le rôle, à ce moment-là, de la communauté, c'est vraiment d'accompagner la personne, mais de pas, je dirais, tirer sur les fruits, si je comprends bien.
C'est absolument pertinent déjà de nommer la question de la communauté ici, parce que c'est peut-être la plus grande lacune qu'on rencontre en ce moment dans la question de l'initiation chrétienne. On offre souvent, par exemple, à un catéchumène, un petit groupe porteur autour pendant son parcours du catéchuménat. Et souvent, ce groupe, puis qui est formé de membres de la communauté, souvent, il va se dissoudre après et... Après, on va se plaindre un peu que la personne, on la revoit pas. Les catéchumènes, ils sont bien chauds quelques semaines après leur célébration des sacrements à la fin du parcours. Mais souvent, souvent, malheureusement, ça prend pas de temps qu'on les revoit plus. Et on se pose la question pourquoi. Mais c'est parce qu'on a créé un contexte même beaucoup trop artificiel. Ce qu'il faut, c'est que la communauté ait elle-même, indépendamment des catéchumènes, que la communauté ait des activités qui sont des espaces qui soient formateurs. Est-ce que la communauté a des moments de prière et pas faire exprès pour les faire à cause de la présence de catéchumènes? Est-ce que la communauté est une communauté qui se réunit pour prier, pour partager la parole? Est-ce que la communauté a des projets d'engagement pour la justice et tout ça, qui soit un espace où peuvent s'engager ces catéchumènes-là? Est-ce qu'il y a des moments de vie fraternelle de la communauté pour que le catéchumène apprenne la fraternité, pas de façon artificielle avec un petit groupe, mais dans la vie ordinaire de la communauté? Alors, oui, la communauté a cette responsabilité d'être porteuse, mais pas en mettant sur pied une structure artificielle. Elle doit être porteuse par sa vie ordinaire, qui est un lieu de découverte de ce que c'est que d'être un disciple du Christ. C'est idéaliser un peu ce que je dis, mais ça met en évidence, malheureusement, la lacune de beaucoup de nos communautés chrétiennes.
En compagnie de Daniel Laliberté, directeur de l'Office national de liturgie, le secteur francophone, on va profiter de sa présence pour parler de son expérience au Luxembourg, une église qu'on connaît peu, l'église du Luxembourg, et pourtant il y a des parallèles avec l'église du Québec.
Tout à fait. C'est une toute petite église parce que le pays est minuscule, c'est 93 km par 50 km, c'est le quart de la région de Québec, si on peut dire.
C'est entre la France, l'Allemagne et la Belgique,
tout petit pays. Pays qui fait partie de la francophonie sans que les gens soient nécessairement en majorité des francophones de souche, mais ils savent tous parler français, ce qui fait que c'est devenu un terrain facile pour moi pour atterrir, là, parce que tout le monde sait parler français. C'est l'histoire de ce pays-là qui fait qu'ils savent tous parler. Mais quand on parle de l'histoire du pays, j'ai surtout le goût de parler de leur histoire religieuse, parce que ce qui est intéressant, c'est de découvrir qu'ils sont dans une situation qui a beaucoup, beaucoup de parallèles avec la nôtre ici. Mais les choses se passent pas au même rythme et au même moment. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire une conférence quelques années après être arrivé là-bas, qui justement travaillait sur ces parallèles entre les deux, à cause de la responsabilité qu'on m'avait confiée là-bas, qui est, je l'ai dit un peu la semaine passée pour ceux qui ont pu l'entendre, là, c'est une responsabilité d'implanter la catéchèse dans les paroisses là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à un Québécois d'y aller, parce qu'il y avait ces parallèles entre les deux. Le parallèle le plus évident, c'est que dans les deux cas, on est dans des processus très rapides de ce qu'on appelle la sécularisation. C'est-à-dire sortir d'une société très marquée par la chrétienté, par des références religieuses explicites, pour lentement devenir entrer dans une société. Ben, je dis lentement. Non, c'est justement ça. C'est pas lentement, c'est plutôt rapidement.
C'est rapidement.
Oui,
c'est ça.
Entrer dans une société qu'on dit sécularisée, c'est-à-dire où les références de base des gens ne sont plus des références religieuses. Après, bon, chacun trouve ses propres références à lui quand on n'a plus de références religieuses communes. Et donc, trouver à vivre ensemble dans ce contexte-là, ça peut être assez difficile. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que ce que nous, on a l'impression d'avoir traversé de façon très rapide, hein, si on situe à la fin des années 50 et ensuite la Révolution tranquille qui s'est conjuguée avec Vatican II pour bousculer beaucoup nos cadres de référence, et ensuite ce qui s'est enchaîné sur quelques décennies jusqu'à encore aujourd'hui, on est encore dans ce processus-là. Mais le Luxembourg vit la même chose, mais encore beaucoup plus vite que nous.
Beaucoup plus accéléré au Luxembourg.
Ah oui, c'est ça.
Beaucoup plus accéléré.
C'est ça. Et je vais dire un mot qui me vient en anglais, c'est un clash, c'est un choc.
C'est
un grand choc pour eux, parce que c'est une société qui était, je pense, encore plus ancrée dans ses traditions religieuses. Et donc, de constater que maintenant, tous ces repères-là sont en train d'éclater, mais très rapidement. Et entre autres, le fait que le gouvernement, en 2013, a décidé là-bas d'abolir l'enseignement religieux, pour eux, c'était un choc énorme. C'était, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et toute la question de la transmission de la foi, ils étaient assez démunis par rapport à ça. Ils connaissaient le concept de catéchèse, mais il n'y avait pas d'expérience pratique de comment on fait ça en paroisse. Et c'est dans ce contexte-là qu'on m'a emmené là-bas. Et ça m'a permis, donc, ma présence de 7 ans là-bas, de réaliser, de constater de façon de plus en plus fine, je dirais, les parallèles qu'il y avait entre les deux. Et donc, c'est un peu là-dessus que j'ai fait cette conférence. Mais quand je l'ai faite là-bas, c'était bien sûr pour parler un peu avec les Luxembourgeois de ce qu'on avait vécu ici et de comment, puisqu'ils vivaient la même dynamique, ce serait intéressant qu'ils puissent tirer profit de ce qui a bien été et de ce qui a mal été dans nos décisions d'Église par rapport à ce phénomène de sécularisation. Mais moi, comme Québécois, ben ça soutient ma propre réflexion sur nos enjeux d'ici par rapport à ça.
Et on arrive à nos enjeux d'ici. Donc, cette Église minorité mm-hmm. religieuse maintenant, mm-hmm. l'Église catholique, qui veut risquer l'avenir, c'est le rapport La Recherche-Action de 1992. Mm-hmm. Une Église qui cherche à former des disciples de Jésus. Une église qui s'adresse peut-être en priorité à des adultes.
Mm-hmm. Et, on voit que vous l'avez lu.
Oui. Ben, enfin, j'ai lu ce que votre communication, très intéressante mm-hmm. d'ailleurs. Et puis, l'église qui vit le mystère de la mort et résurrection du Christ. Mm-hmm. On a peut-être plus l'impression d'être dans le jeudi, vendredi saint ou samedi saint que d'être dans le dimanche de Pâques. On verra.
On se sent pas encore beaucoup dans la résurrection.
Mais qu'est-ce que vous-même vous retenez pour nous?
Il y a du positif et du négatif dans ce que je retiens pour nous. Je dirais que, déjà, il y en a qui vont dire « Ah, c'est du vieux truc, ça, 92, risquer l'avenir », mais quand on lit ce qu'ils avaient osé dire à ce moment-là, et surtout quand on constate que les évêques du Québec, sur la base de risquer l'avenir, avaient quand même pris certaines orientations officielles pour l'ensemble de l'Église au Québec, et ensuite de faire l'analyse, plus de 20 ans plus tard, de « qu'est-ce qui est arrivé ?» avec ces décisions des évêques qui avaient été prises à ce moment-là, ça devient très intéressant à faire comme analyse. Et comme je dis, il y a du positif et aussi du négatif. Ils avaient retenu essentiellement 3 grandes orientations. La première qui était sur l'importance de focaliser sur l'éducation de la foi des adultes. La deuxième qui était sur la mise en place de petits groupes de partage de foi et de vie. Et pas de juste de quelques-uns. Là, l'idée, c'était de faire en sorte que la vie chrétienne en général soit soutenue par le fait d'appartenir à ces petits groupes, et la troisième qui était la transformation de nos pratiques d'initiation chrétienne. Là, on rejoint évidemment mes intérêts premiers. Et quand on analyse ce qui s'est passé par rapport à ces trois éléments-là, on est malheureusement obligé de dire que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas l'impression que la majorité des chrétiens au Québec, des catholiques au Québec, se vivent au sein de petits groupes de partage de foi. Que nos adultes ont été formés dans la catéchèse de sorte qu'ils sont capables de parler de façon explicite de leur foi, comme je disais un petit peu plus tôt. Et quant à nos transformations des pratiques d'initiation chrétienne, bah, plutôt modeste comme avancée, je dirais. Je suis un peu critique. Non, je suis beaucoup critique, je vais être franc, mais c'est que j'ai l'impression, et je faisais un peu l'analyse de ça dans ma conférence, ce qu'on appelait la leçon inaugurale là, au Luxembourg. Ce qui est frappant de tout ça, c'est la fameuse résistance au changement. C'est tellement fort, la résistance au changement, et à tous les niveaux de la structure. Là, je deviens très critique, hein, mais vous m'avez amené là-dessus. j'ai un peu l'impression que parfois, on va dire que c'est parce que les gens sont pas prêts qu'on veut pas faire de changement. Mais parfois, il faut se demander qui, en fait, est pas prêt au changement. Parce que, je prends un exemple. Les fameuses célébrations dominicales de la parole, qu'on appelle aussi parfois des ADAS, là, assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique. Bon, je pense l'archevêque de Québec, par exemple, qui avait pris une décision très forte au moment où il a dit qu'on allait dans cette direction-là. La décision, par exemple, de ne pas distribuer la communion à l'occasion de ces célébrations. Et là, j'ai entendu des réactions qui vont dans le sens de ce que je viens juste de dire. J'ai entendu par des agents de pastoral, des diacres, etc. Mais ça, on sera pas capable d'expliquer ça aux gens. Les gens sont pas prêts. Mais quand je creusais un peu, là, les personnes à qui je parlais, elles-mêmes, saisissaient pas pourquoi l'archevêque pouvait prendre une décision comme celle-là. Moi, je suis 100% d'accord avec la décision de l'évêque. Je crois que d'assumer la... Bon, tout à l'heure, vous référiez justement à risquer l'avenir et au fait d'assumer qu'on est dans... On a une expérience décapante à vivre à travers ça. D'accepter qu'on est dans une phase d'attente, de vide, qui fait que on va attendre d'avoir la célébration eucharistique pleine et entière pour pouvoir communier. Et en attendant, assumons ça en se disant que il y a quand même de la communion qui se vit. Le Christ, il est quand même présent dans sa parole. Le Christ, il est quand même présent dans la présence de nos frères et nos sœurs. À chaque fois que vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai là. Il est le Verbe, donc il est là quand on proclame la parole. C'est pas qu'il n'y a pas de communion, mais la position de l'archevêque de Québec, à ce moment-là, elle était de ne pas désarticuler la célébration eucharistique pour faire comme une sorte d'en soi dans le fait de recevoir l'hostie, mais de toujours situer la communion eucharistique dans la célébration où je me suis moi-même offert avec mes frères et mes sœurs sur l'autel. Et que c'est ce que j'ai offert de ma vie sur l'autel qui me revient par le fait de communier. De pas désarticuler tout ça et d'accepter qu'on est dans une phase d'attente, de manque, disons-le comme ça, carrément de manque. C'est parce qu'on manque de ministres, c'est parce qu'on manque de ci, de ça. Mais l'accepter, ça, c'était la position de l'évêque. Et comme je vous dis, il y a plein de gens qui disaient « Ah, les gens sont pas prêts à ça. » Oui, mais je pense qu'il y a des gens, quand on leur fait une catéchèse sensée sur ça, ils sont capables de le comprendre, mais encore faut-il que ceux qui ont la responsabilité de faire la catéchèse eux-mêmes fassent cette réflexion-là. Bon.
Voilà. Daniel Laliberté, en une minute, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans les raisons qui ont été données pour, en tout cas, ces résistances au changement, le fait que, ben, on a toujours attendu ça de l'Église, donc elle doit nous le donner. Il n'y a pas un côté un peu consommateur qui aurait pu expliquer aussi certaines résistances?
Est-ce qu'on peut dire que poser la question, c'est un peu y répondre, hein? ouais. Il y a, c'est sûr que quand on parle de l'Église catholique, on parle d'une tradition longue. Et on prend souvent cette image-là, un paquebot, c'est long à faire tourner. Hein? Une petite chaloupe, ça se vire sur un dixaine, comme une bonne expression de chez nous. Un gros paquebot, c'est plus long à faire tourner. Et il y a différentes instances. On veut essayer de prendre des décisions de façon cohérente d'un diocèse à l'autre ou dans la grande Église universelle, de sorte que changer, c'est toujours espérer que on va tous bouger le plus possible en même temps pour pas créer des décalages et tout ça. Il y a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi c'est difficile de changer, j'en conviens, mais force est de constater, maintenant, on est 33 ans après risquer l'avenir, que ce qu'il y avait, que moi j'ai toujours considéré comme prophétique là-dedans, il me semble qu'on n'a pas su malheureusement l'assumer. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de ça qui a passé, mais malheureusement, on aurait besoin de revisiter ce texte-là parce que les enjeux et les convictions qui étaient énoncés là, c'est encore des enjeux et des convictions qui devraient nous animer aujourd'hui et peut-être encore plus parce que 33 ans plus tard, l'Église, elle fait encore plus face aux défis de ce moment-là.
Ah, c'est un appel intéressant que vous nous lancez. Donc, le chantier n'est pas terminé. Daniel Laliberté, directeur de l'Office national de liturgie, secteur francophone, un immense merci de votre présence à Question d'aujourd'hui.
Ça m'a fait un grand plaisir. Merci encore.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Au micro, Renaud Grégoire, merci de votre présence et je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à bientôt.